La marche du monde.
De toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont ralliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie, dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Entre 1939 et 1945, ils sont plusieurs centaines de milliers à revêtir l'uniforme pour défendre la France. Ils sont déjà 200 000 entre septembre 39 et juin 40, mais après la défaite, les tirailleurs africains seront encore plus nombreux à être mobilisés aux côtés des alliés et de la France libre. Et on ne connaît toujours pas le chiffre exact de leur participation. Mais ce que l'on peut rappeler, et que l'on ne nous dit jamais, c'est qu'entre 1939 et 1945, les soldats noirs combattent en France, en Italie, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est, et qu'ils participent à la libération et qu'ils débarquent en Provence en août 1944. Ici, à Brazzaville, cette histoire méconnue a été racontée lors des deuxièmes rencontres Images et Histoires, notamment par l'historien Julien Fargetas, l'auteur du livre de référence sur les tirailleurs sénégalais paru en 2012 aux éditions Taillandier. Julien Fargetas est venu rencontrer des lycéens de tout Brazzaville, jeunes Africains, Congolais, Français, et ensemble, ils se sont interrogés, ici, au lycée français, sur le vécu de cette guerre par leurs anciens, les tirailleurs africains.
Moi, je m'appelle Julien Fargetas. J'ai écrit un livre sur les tirailleurs sénégalais de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, j'aimerais savoir si vous avez des histoires personnelles avec ces tirailleurs. Allez, viens nous expliquer ce lien que tu as avec les tirailleurs.
Moi, ma mère, elle m'a expliqué, je ne sais pas si c'est mon grand-père maternel ou arrière-grand-père, mais elle m'a dit qu'il avait fait la guerre et qu'après, quand il est rentré chez lui, il était, on va dire, malade. Il n'arrivait pas à dormir parce qu'il entendait toujours le bruit des chars ou des obus, des trucs comme ça.
Alors, c'est intéressant. Ça renvoie au traumatisme que certainement a vécu ce grand-père, ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc des gens qui doivent être soignés, accompagnés psychologiquement, souvent médicalement. Aujourd'hui, on aide les soldats à passer ce cap. Donc vous imaginez que cet ancien, quand il est rentré, personne ne l'a aidé. On l'a, entre guillemets, pas ou peu aidé matériellement. Donc on ne l'a pas aidé non plus psychologiquement à se réinsérer, à oublier cette guerre, ou tout du moins à vivre avec. Quelqu'un d'autre ?
Moi en fait, c'est ma mère qui m'a dit que mon grand-père qui a eu à combattre, quand il est revenu de la guerre, il était gravement malade. Il n'a pas fait plus d'un an et il est mort. Et on m'a dit qu'il s'était engagé de force, donc c'était pas volontairement. Et dans la famille, c'était comme un honneur qu'il a accepté de le faire. Et aujourd'hui aussi, c'est sous son inspiration que j'ai voulu entrer dans l'armée. Donc, voilà.
La Seconde Guerre mondiale dure longtemps et la mentalité des tirailleurs successivement mobilisés va évoluer au fil du conflit. Les soldats africains ont pris peu à peu conscience de leurs valeurs, ce que montre Julien Fargetas dans ses travaux.
Alors les Français aujourd'hui, quand on en parle de tirailleurs sénégalais, c'est un peu comme vous. Ils ne savent pas forcément ce que ça représente, mais ça leur parle. L'imaginaire colonial correspond à une certaine image du tirailleur. Un tirailleur obéissant, brave, courageux et important, dévoué. Et notamment dévoué à son chef. Et effectivement, quand ces tirailleurs reviennent en 1944-1945, d'une part, ils n'ont pas forcément ou ils n'ont plus de chef. Et puis, ces tirailleurs, ils ont changé. Ils ont appris le français, pour certains d'entre eux. Ils ont connu les Allemands. Ils ont vu la France battue aussi. Et donc, ces officiers coloniaux qui les récupèrent, notamment en Afrique en 1944-1945, s'aperçoivent de ce changement et ne comprennent pas trop ce qui arrive. Et certains d'entre eux disent que les tirailleurs sont désaxés, comme s'ils étaient malades. On ne reconnaît plus nos tirailleurs, et c'est pour ça que parfois, on est en plein désarroi et qu'on décide d'intervenir par la force.
Julien Fargetas propose une histoire sensible des tirailleurs, mais sans jamais se laisser envahir par l'émotion. Avec rigueur et sans concession, il explique le blanchiment de 1944. Certes, les Noirs ont froid, c'est l'hiver et leurs pieds gèlent, mais la France doit aussi donner du travail aux jeunes résistants armés, les FFI, et la France veut aussi montrer aux Alliés et aux Allemands qu'elle peut se battre sans les tirailleurs, car les Allemands, eux, les traitent de sauvages à travers la propagande nazie.
Dès septembre 1944, surgissent des premiers rapports qui nous disent, comme celui-ci, « Il est absolument nécessaire que les Sénégalais soient relevés au plus tôt, non seulement en raison de leur inaptitude physique en saison froide, mais aussi par la suite de la mauvaise influence qu'exercent sur eux les grandes villes. Leur morale commence à baisser, l'annonce d'un armistice possible risque de provoquer des mutineries parmi eux s'ils ne sont pas rapatriés, tout au moins sur l'Afrique du Nord. » Donc les états-majors s'inquiètent, la confiance s'émousse et on décide de les retirer du front. Alors effectivement, ces tirailleurs sont contents de quitter ce nord-est de la France où il fait très froid, mais vous imaginez qu'on va littéralement les déshabiller pour pouvoir équiper les soldats français, parce qu'à l'époque, tout manque, les usines ont été bombardées, etc., et qu'on est incapable d'équiper la nouvelle armée française. Mettez-vous à la place de ces tirailleurs qui ont traversé l'Afrique, qui ont débarqué, qui ont vaincu les Allemands à Toulon, qui ont remonté la vallée du Rhône, qui ont libéré Lyon. Et là, on leur dit, bon, bah, demain matin, tu te mets en face de ce Français, tu enlèves ton pantalon, tu lui donnes ta veste, etc. Mettez-vous un petit peu à la place de ces soldats et imaginez comment ils ont pu le vivre et comment ils ont pu être, entre guillemets, choqués par ce blanchiment.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI.
Alors, qui connaît Tiaroy ?
C'est au Sénégal et il y a eu un massacre là-bas.
Donc c'est au Sénégal et il y a eu un massacre là-bas.
C'est au Sénégal et il y a un cimetière de tirailleurs sénégalais.
Alors effectivement, Tiaroy, c'est au Sénégal. Aujourd'hui, on dit Tiaroy-sur-Mer, dans la banlieue de Dakar. Alors effectivement, comme on dit vos camarades, il y a eu un massacre à Tiaroy. Et ça concerne des tirailleurs sénégalais.
Tiaroy est précédé de nombreux incidents lors de ce terrible hiver 44. Julien Fargetas mentionne des protestations ailleurs dans le sud de la France ou encore à Marseille où les tirailleurs prennent d'assaut une gendarmerie. Des affrontements à Sète et à Fréjus où des milliers de tirailleurs démobilisés attendent le bateau pour rentrer en Afrique. Ceux de Tiaroy aussi ont protesté, ils sont les premiers à traverser.
Alors qu'est-ce qui se passe à Tiaroy ? En fait, on rapatrie un détachement de prisonniers de guerre, ceux dont je vous ai parlé, ceux qui sont restés en France, qui ont vécu dans les familles françaises, etc. C'est le premier détachement d'anciens prisonniers qu'on rapatrie sur l'Afrique. Et le 28 novembre, date à laquelle un détachement devait embarquer en gare de Dakar pour Bamako, il refuse, ce qui provoque la visite d'un général, le général Dagnan, qui commande les troupes dans le secteur de Dakar. Et le général Dagnan, il vient au camp, il amène sa fanfare avec lui, hein, pensant faire bon effet, mais il amène aussi des troupes. Et là, il écoute toutes les réclamations des tirailleurs, mais les tirailleurs s'adressent à lui d'une manière nouvelle. Ils ne s'adressent pas à lui, au garde à vous, respectueusement. Le général est véritablement invectivé. Finalement, il arrive à partir en promettant de revenir le lendemain, mais ce général, il est finalement convaincu que ce détachement est véritablement en état de rébellion. Il le dit, à partir de ce moment-là, ma décision était formelle. Tout le détachement était en état de rébellion et il était nécessaire de rétablir la discipline et l'obéissance par d'autres moyens que les discours et la persuasion. Et cette démonstration, elle va intervenir le 1er décembre 1944. Le camp est entouré par les troupes. Précision importante, parmi ces troupes, vous avez des gendarmes français, vous avez des soldats français et vous avez d'autres tirailleurs sénégalais. On donne l'ordre aux anciens prisonniers de se mettre en ordre pour pouvoir embarquer dans les trains. On refuse, il y a un rapport de force qui se crée, des insultes, des colibets, et à 9h30, les autorités militaires font une sommation. Les anciens prisonniers ne répondent pas à la sommation, refusent d'obéir, et quelques minutes plus tard, c'est l'ouverture du feu. Bilan officiel, 35 morts parmi les anciens prisonniers. Alors très rapidement, l'autorité militaire et l'autorité civile va s'apercevoir de la gravité de l'événement. Malgré tout, quelques jours plus tard, le gouverneur général s'adresse au ministre et il déclare « Cette intervention était nécessaire car c'était là la souveraineté même de la France qui était en cause. »
Tiaroy symbolise encore aujourd'hui l'ingratitude de la France envers ses anciens combattants africains, sans compter que de nombreuses zones d'ombre persistent puisque les corps n'ont jamais été retrouvés. Pour Julien Fargetas, entre 35 et 70 tirailleurs ont été massacrés à Tiaroy.
Moi, il m'a convaincu, ça va. Mais après, moi, il n'y a jamais eu ça dans ma famille, donc...
Vous aviez entendu parler de ces histoires de tirailleurs?
Ouais, on en a entendu parler. Je viens du Sénégal, j'ai connu Tiaroy, mais il y a certaines choses que je ne connaissais pas vraiment de cette histoire. Mais au fur et à mesure que je découvre certaines conférences comme ça, je peux demander aux parents, aux grands-parents, partir au village pour avoir beaucoup plus d'informations là-dessus.
Et vous allez aller poser des questions dans votre famille?
Quand même. Et je pense que c'est une obligation et c'est un droit de le faire aujourd'hui.
Julien Fargetas, vous participez ici à Brazzaville à cette deuxième rencontre cinéma et histoire. Vous êtes venu présenter donc aux jeunes Congolais et Français présents ici au lycée de Brazzaville vos travaux sur les tirailleurs africains pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous êtes également ici à Brazzaville pour rencontrer les anciens. Quelle continuité pouvez-vous faire entre la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et puis ensuite les autres guerres de décolonisation? Est-ce que l'histoire des tirailleurs africains, c'est uniquement l'histoire de la Seconde Guerre mondiale?
Non, bien sûr, les tirailleurs sénégalais apparaissent au 19e siècle. Ils ont été de toutes les phases de la conquête coloniale et puis effectivement, on les connaît plus sous l'aspect de leur participation à la Grande Guerre puis à la Seconde Guerre mondiale. Et on oublie bien souvent qu'ils ont dû également combattre en Indochine, à Madagascar, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au profit de cette France qui refusait de perdre aussi ses souverainetés coloniales. Et il y a beaucoup de liens entre ces anciens de la Grande Guerre et ces tirailleurs des décolonisations. Alors des liens très précis quant à leur recrutement, leur mode de fonctionnement, leur mode de vie, mais aussi beaucoup de différences avec des évolutions majeures dans ce corps militaire.
Est-ce que cela veut dire au fond qu'à partir des guerres de décolonisation, il y a plus de reconnaissance de ces combattants africains, ensuite ils seront mieux pensionnés, ou c'est ailleurs que ça se joue?
Non, effectivement, il y a un aspect de la reconnaissance qui est important, mais surtout, leur évolution va être parallèle à celle des évolutions institutionnelles, puisque à partir de 1946, l'empire colonial n'existe plus et on passe à l'Union française. Et ils accéderont par la suite à la citoyenneté française. Donc le corps évolue, les mentalités évoluent. Je sais par exemple que quand un jeune appelé français arrivait en Algérie dans un régiment de soldats africains, la première consigne qui lui était donnée était de ne pas utiliser de termes péjoratifs à leur encontre. et d'utiliser le terme de soldat africain. Voilà. Déjà, le terme de tirailleur sénégalais tendait à disparaître.
Alors aujourd'hui, à Brazzaville, vous allez à la rencontre de ces anciens. Là aussi, il est urgent de recueillir une mémoire, ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment fait sur la question de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, effectivement, ces mémoires sont importantes, car si les archives existent, les archives ne nous donnent pas tout, et notamment le vécu de ces soldats, leur quotidien, leurs impressions. C'est un peu les carences que l'on observe aujourd'hui autour des études de la Première Guerre mondiale et de la Seconde. On ne sait finalement que très peu de choses sur ce que pensaient ces soldats. En revanche, ils sont encore nombreux aujourd'hui autour des conflits de décolonisation et il est grand temps de recueillir leurs témoignages. C'est ce à quoi je commence à travailler à Brazzaville, où je compte bien revenir dans les mois qui viennent pour creuser plus avant cette question.
Je vous propose, Julien Fargeza, justement qu'on donne la parole aux anciens, puisque vous êtes allé les rencontrer, ils se sont réunis ici à Brazzaville. Vous allez commencer ce travail avec eux, et puis moi je vais leur tendre mon micro. Merci.
Merci beaucoup et avec plaisir. Alors, Alain de Chine, vous étiez dans quel régiment, dans quel bataillon ?
Angers-Mérique. Oui. Moi j'étais dans la première compagnie Angers-Mérique. À Saigon.
On est ensemble demain.
D'accord. Les deux, ils ont été dans le même bâtiment.
Vous pouvez vous présenter ?
Je m'appelle Mazikou Thomas.
Tu te présentes d'abord ?
Oui. Mazikou Thomas. J'ai conduit un bateau de guerre en Indochine. Dans ce bateau de guerre, il y a eu 20 morts. Et moi, je suis resté le seul. C'est là où je suis passé à la télévision de toute la France.
Cette attaque sur ce bateau, c'était en quelle année ?
C'était en 55. J'étais même décoré pour la croix de guerre avec le fils du général de Gaulle. Ensemble, on était ensemble. On nous a décoré en France.
Je m'appelle M. Mpo Jean. Oui, j'étais dans l'armée française de la classe 1952.
Comment ça se passait avec les Blancs, justement, en Indochine ? Les Blancs, c'était uniquement le commandement ?
Oui, les Blancs, c'était seulement le commandement. Vous voyez, et des fois, on en avait cinq, c'est divisé par le groupe, et quoi, et tout ça. Bon, on avait une bonne ambiance entre nous. Et nous, dès l'arrivée, on a eu beaucoup de problèmes, parce qu'il y en a d'autres qui ont trahi, dit que nous, la peau noire, là, il dit que c'est lorsqu'on va en Indochine et on met la peinture. Ah oui, ah bon, oui, on met la peinture, eux là, ils ne sont pas comme ça, ben, c'est la peinture pour le camouflage.
Qui a dit ça ?
Mais les gens là-bas.
Les Vietnamiens ?
Oui, les Vietnamiens, il y a beaucoup de traites, et tout ça, dit, bon, pour avoir, il faut verser de l'eau chaude sur le corps, vous allez voir comment ils vont devenir blancs. Et tu sais que lorsqu'on met de l'eau chaude sur le corps, automatiquement, cette peau-là s'enlève.
Et finalement, de l'eau brûlante ?
Ah oui, de l'eau brûlante. Bon, vous êtes par exemple prisonnier. Bon, on dit voilà, bon, pour les tester, pour savoir exactement et si ce qu'on dit est vrai. On verse l'eau chaude sur le corps, et quoi, tout ça. Mais la peau s'enlève, on devient blanc.
Donc il y a eu des amis soldats qui ont été faits prisonniers par les Vietnamiens et qui ont été ébouillantés.
Bien sûr, qui ont été comme ça, présentés. Lorsque nous sommes sortis, j'avais eu la chance pour ne pas être prisonnier.
La marche du monde à Brazzaville, c'était lors des deuxièmes rencontres images et histoires. On se retrouve avec les anciens combattants congolais et leur porte-voix, le chanteur Zao, juste après les infos sur RFI.
On arrive à l'espace Zao. L'espace Zao, vous allez découvrir.
La marche du monde.
C'est un espace culturel, une salle de fête en même temps, un atelier de musique aussi. Voilà, c'est là. C'est même écrit là.
C'est votre Zao. Quartier ?
Ça, c'est le quartier Bakongo.
Espace Zao. Espace Zao, c'est là où on répète ça.
il y a une scène en même temps, parce que, comme je disais, c'est un atelier en même temps où les jeunes artistes viennent un peu répéter, parce que je mets à leur disposition quelques instruments de musique pour leur tendre un peu la main, parce que, vous savez, les instruments de musique ici, c'est une denrée un peu rare. Au fur et à mesure, je deviens leur doyen. Donc, le doyen doit aussi tendre la main, parce que c'est la moisson de demain, cette jeunesse.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Alors il s'en passe des choses ici à l'espace Zao. Et déjà, c'est l'occasion pour la marche du monde, ici à Brazzaville, de rencontrer celui qui chante l'hymne des anciens combattants partout dans le monde. Et pour me répondre, Zao, vous vous êtes coiffé?
Je porte une chécha, parce que maintenant c'est l'événement. C'est l'histoire maintenant des tirailleurs qu'il faut un peu retracer. Je chantais quand même pour eux, pour les anciens combattants. Toute l'Afrique est unie par cette histoire-là. Parce qu'il y a des anciens combattants sénégalais, il y a des anciens combattants congolais, gabonais. Nous, depuis notre enfance, on a vécu cette histoire.
Alors cette histoire, si elle vient de l'enfance, j'aimerais moi que le Zao Petit prenne la parole. C'est quoi les premiers contacts avec les anciens? C'est quoi les histoires qu'ils racontent?
Bon, les histoires qu'ils racontaient, les anciens combattants, c'est que à chaque fois, quand ils portaient leur uniforme avec beaucoup de décorations, ils se vantaient. Ils se vantaient surtout que nous, on a fait la guerre, on est revenus parce qu'on a montré en Europe que nous sommes noirs, certes, mais nous avons été forts. Et parfois, on avait nos gris-gris. Et parfois, on était invisibles parce que les Allemands ne nous voyaient pas. Voilà.
C'est sûr. Ça fait rêver un gamin, c'est impressionnant.
C'est impressionnant. Lorsque tu es enfant, ce qui t'attire, c'est les militaires. Hein. Un enfant, il est né avec la fureur de vaincre, avec cette grandeur de vaincre, d'être le plus grand, le plus fort. Et nous, c'est que lorsqu'on voyait ces vieux-là, ces anciens, on se disait que moi aussi, je voulais devenir militaire. C'était ça notre souhait. Et puis, on créait des fanfares dans la rue. Bien sûr, avec les boîtes de conserve vides qu'on frappait, on se faisait des tenues pour ressembler un peu aux anciens combattants et on défilait aussi dans les rues.
Bête va militaire, bête va militaire, Muntu Sakana, tu couvres Kweto.
Zao, lorsque vous créez en 1984 la chanson Ancien combattant, vous repensez à la façon dont vous, gamin, justement, vous vous déguisiez en militaire, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi.
Vous allez bien.
La façon dont vous vous habillez.
Vous allez bien remarquer que dans l'ancien combattant, c'est presque un pot pourri. Il y a plusieurs musiques des militaires, musiques de. Tout un tralala de musique. Et je pense que cette musique-là a marqué mon enfance. Le clairon qui faisait faites vite pour se rassembler, pour venir soit manger. C'était ça. Où est-ce qu'il se trouvait lorsqu'il entendait le clairon? Le gars, il laissait sa bière et il courait vite pour rejoindre le camp. Nous, on s'est dit, par rapport aux guerres qui se passaient, c'est vrai, il y a eu cette guerre de 44. Mais dans notre sous-région, il y a eu beaucoup de guerres. Ce qui nous a attirés, c'est surtout la guerre de l'Angola. Parce que nous, on était tout gamins. Et cette guerre-là a tellement duré. Et nous, en tant que chanteurs engagés, ça nous interpellait. Il faut faire quelque chose.
Le coquet ne va plus le coquet, le colico. La poule ne va plus le poulet, poulet le seul. Le footballeur ne va plus le souder, pousser le ballon. Les joueurs, les arrêtures, même les ballons.
Zao, en 84, lorsque vous chantez Ancien combattant, vous l'avez dit, c'est à la fois les militaires de votre enfance que vous admirez, que vous évoquez. C'est aussi ce personnage que vous jouez sur scène avec beaucoup d'humour. Mais c'est aussi le Zao adulte qui parle et qu'est-ce qu'il nous dit sur la guerre?
Je dis, je vais peut-être m'éteindre un jour, mais jusqu'à la fin de ma vie, je vais toujours dire que la guerre, c'est pas bon. C'est pas bon, la guerre. Je vais toujours le dire. C'est comme ce prêtre-là, dans son homélie, qui dit toujours, ne faites jamais du mal, ne tuez pas, aimons-nous les uns les autres. Donc c'est ça. Moi aussi, c'est mon rôle que je joue. Je ne cesse pas de le dire, que la guerre, c'est pas bon. La guerre, ça pue la haine, le mépris, le désespoir. Surtout pour nous, les Africains, si nous nous éternisons sur la guerre, rien ne va marcher. Il faut vraiment laisser à côté cette guerre-là. Travailler, développer l'agriculture. Il y a autre chose qui nous regarde que la guerre.
Ça, c'est ce que Zao peut dire sur toutes les guerres. Mais pourquoi la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement, elle n'est pas bonne pour les Africains? Pourquoi?
J'ai tourné quelque part dans le film de Semaine Ousmane, Charo 44. Et l'histoire, c'est tirailleurs sénégalais qu'on les appelait parce qu'il y a... Il n'y avait pas que des Sénégalais, des Congolais, des Gabonais, tout ça là. Mais qui étaient un peu mal payés. Et à la fin, il y a eu monnaie de singe, ils ont été négligés. Et puis, ils revendiquaient les droits. Les militaires français étaient payés plus que les tirailleurs sénégalais. Donc, ils étaient un peu rejetés. Cette injustice-là a fait que, bon, ça fait beaucoup de mal à ces tirailleurs sénégalais.
Lorsqu'ils ont revendiqué, ils ont été fusillés à l'aube. Je ne connaissais pas très bien cette histoire des anciens combattants, mais quand je suis allé au Sénégal, quand j'ai joué dans le film de Semaine Ousmane, j'ai vu exactement comment ils étaient habillés, comment ils se comportaient, quel français ils parlaient. Vraiment, c'était le français vraiment terre à terre, hein. Le français indigène, quoi. Le moyen à avoir, quoi. Toi avancer, moi tirer toi, par exemple. Où le sujet verbe complément n'était pas respecté, quoi.
Donc c'est vraiment au moment du tournage du film que vous avez pris conscience.
Parce qu'on a tourné ça dans un camp où il y avait des acteurs blancs et des acteurs noirs comme nous. Chaque pays était représenté. Le Gabon, le Niger, le Mali, le Tchad, partout. Donc moi, j'incarnais le rôle du tirailleur Congo. Donc merci à Semaine Ousmane et perd son âme, mais c'est lui qui m'a vraiment ouvert les yeux.
Est-ce que c'est une surprise, justement, de voir qu'il n'y avait pas que les Congolais?
Oui. Moi, je pensais que c'était seulement des Sénégalais. Mais il n'y avait pas que des Sénégalais. Il y avait des Congolais, des Gabonais, de partout, de toute l'Afrique. Voilà pourquoi je dis que nous sommes vraiment unis par cette histoire des anciens combattants. Pour ne pas dire que c'est notre patrimoine.
L'équipe de France vivante.
Les rencontres de Brazzaville sont consacrées aux Africains dans la Seconde Guerre mondiale. Et Zao, vous êtes à l'honneur, vous montez sur la scène.
Moi, je pense que je suis très à l'honneur. Nous sommes beaucoup de Congolais ici, artistes, mais on a choisi Zao. Moi, je pense que je ne peux qu'être content.
Vous pouvez me dire les paroles les plus importantes de votre chanson Ancien Combattant?
Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi. Si tu ne fais pas de Tchangui, cadavré. Tchangui, ça veut dire que si tu esquives pas la balle, tu es cadavré. Ton père, cadavré. Ta mère, cadavré. Ton grand-père, cadavré. Même le président, cadavré. Les ministres, cadavré. Les journalistes, cadavré. Tout le monde, cadavré. Et je dis, la bombe, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon. Le nucléaire, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon. Les terrorismes. Parce que c'est une chanson qui suit le cours des événements. Par rapport aux événements, je peux toujours la modifier.
Comme elle est la bombe, tout le monde est fougueux. Comme elle est la bombe, tout le monde est fougueux. Ton pays, en mer, les SS, en mer, les États-Unis, en mer, la France, en mer, l'Angleterre, en mer, l'Espagne, en mer, l'Irak, en mer, le Mali, en mer, le Rwanda, en mer, Burkina Faso, en mer. Les belles, bon mes moutons, bon mes amis, bon toi là-bas. la poitrine.
La marche du monde à Brazzaville avec Zao, chez Zao, à l'espace Zao, dans le quartier de Bakongo. Zao, vous avez mis votre chécha pour nous parler des anciens combattants, pour nous parler de la chanson Anciens combattants. C'est une chanson que vous avez chantée dans le monde entier, dans les pays frères. Vous êtes allé en tournée, vous avez tourné en Afrique, vous avez tourné en France. Plein de gens se demandent d'abord si vous êtes un ancien tirailleur.
Non, je ne suis pas un ancien tirailleur, mais je ne pouvais pas aussi rester les bras croisés. Vous savez, nous, en ce temps-là, c'était le socialisme scientifique. On ne chantait que des chansons contre la guerre. Nous avons beaucoup milité pour la paix. La paix au Congo, la paix en Afrique, la paix dans le monde. Participe aussi à de nombreux festivals. Festival mondial de la jeunesse à Cuba, nous avons été chanter toujours pour la paix à Blagoevgrad en Bulgarie, au Nigeria, nous avons été partout pour chanter sur le thème de la paix. Avant même l'ancien combattant, nous on a beaucoup milité. Surtout, il y avait en ce temps-là cette guerre froide. Nous sommes allés jusqu'à Moscou. C'était le mouvement marxiste-léniniste. C'était des chansons révolutionnaires. Donc voilà pourquoi Zao existe.
La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les persines, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les chèches-mains, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles,
vous avez dit, parce que beaucoup de gens se posent la question encore aujourd'hui, que vous-même, vous n'êtes pas un tirailleur. Mais les papas, les tontons, les grands-parents...
Ah si. Mon grand-père, il s'appelait Jean Debeka. Il est mort en exil.
Il est mort où ça?
Je ne sais pas. C'est-à-dire que le père de ma mère à moi, je ne l'ai pas connu. Mais il était parti pendant la guerre, il a disparu là-bas.
Il a été pris pour la Seconde Guerre mondiale.
Pris pour la Seconde Guerre mondiale, il s'appelait Jean Debeka. Il est mort. Il est mort loin. Peut-être au Tchad. Il devrait mourir au Tchad.
Et votre père, votre mère, qu'est-ce qu'ils vous ont raconté sur lui?
Ah, mais il racontait que lui avait laissé une machine à coudre. Quand il était parti, ma mère était encore très jeune. Il pensait que cette machine-là pouvait aider sa fille pour apprendre à coudre les habits.
Donc votre maman, elle s'est retrouvée orpheline très très jeune.
Oui. Un enfant qui perd son papa très tôt parce qu'elle était partie à la guerre, je pense que ça fait mal. Elle ne nous a même pas montré des photos. Ça fait tellement longtemps qu'elle n'avait rien gardé. À part la machine à coudre, elle n'avait aucun souvenir.
Voilà, notre chanteur, oui, il a chanté correctement, il a fait une chanson d'ancien combattant qui est formidable. Mais au-delà de sa chanson, qui a moralisé presque le monde entier, c'est quelque chose de formidable. Nous ne pouvons que le remercier en tant qu'artiste congolais qui a écrit une chanson qui a émerveillé tout le monde entier.
Étudiants, marchands de tissus, encore mécaniciens, tous les Congolais que j'ai croisés à Brazza sont encore et toujours des fans de Zao. Même au foyer des anciens combattants, situé avenue de la Paix, les descendants des tirailleurs apprécient l'hommage et se racontent volontiers.
Anciens combattants,
Moi, c'est M. Histoire Claver. Je suis officier de l'armée congolaise. Je fus dans l'armée française. J'ai été libéré avec le grade de caporal-chef. En ce moment, je suis à la maison. Je vis à Talangaï, dans la rue du marché numéro 57.
Avant d'évoquer vos services, est-ce que dans votre famille, il y a eu des tirailleurs dans la Première ou dans la Seconde Guerre mondiale?
Oui, il y a eu mon grand-père, Itoua Mami. Il a fait la guerre 39-45. Et à la fin de la guerre, il a été remercié comme ça et remis à la disposition des parents. Il en est mort sans avoir bénéficié de quelque chose.
Est-ce que ce grand-père, vous avez eu l'occasion de parler avec lui de cette guerre?
Absolument. Comme on ramassait les gens dans les villages, c'est un illettré. Il me parlait de temps en temps de Birakem, de l'Égypte, de la Syrie. Il parlait tout le temps du général de Gaulle, qui était leur patron, qui était leur chef. C'est à peu près tout dans ses souvenirs. Et il disait de temps en temps, à la fin de la guerre, le général de Gaulle nous a demandé de partir, nous marier et faire les enfants.
Quel lien vous faites entre l'histoire de vos grands-pères, de vos pères et la vôtre?
L'histoire de mon grand-père, je ne peux pas l'évoquer parce que lui, il a été pris de force, lui. Pour faire partie de l'armée française, un tirailleur. Mais moi, c'est parce que j'étais jeune, j'étais à Brazzaville. Je préférais aller à l'armée française. Nous étions une colonie française ici. Avec la guerre qu'il y avait en Indochine, en Algérie et tout, j'ai été recruté dans l'armée et envoyé d'abord en France, 3 ans, et ensuite en Algérie, où vous allez faire la guerre, dans le cadre de la France. Parce que nous étions colonisés par les Français.
Avant de partir, le fait de savoir que vous allez vous retrouver justement face à d'autres colonisés, c'est quelque chose auquel vous aviez pensé?
D'autres colonisés? Oui, parce que toute l'Afrique était colonisée. Non, en dehors des Noirs qui étaient là-bas, nous avions rencontré les Français qui étaient avec nous. Nous étions commandés par les officiers français, par les sous-officiers français. Et ça... Il fallait s'y attendre parce que nous étions colonisés par la France. En ce temps-là, il n'y avait pas encore des cadres. Les cadres africains, nous étions dirigés par les Français.
Est-ce que ce que vous avez vécu en tant que soldat dans l'armée française en Algérie, vous l'aviez imaginé avant de partir?
Ah, pas du tout. C'était pour nous un enthousiasme de jeunes d'aller se balader dans un pays lointain. Jamais on n'avait dans l'idée qu'on allait rencontrer ce qui se passait sur le terrain comme guerre. Avec le nombre de morts qu'il y avait lorsque vous allez en opération, les morts africains et français, mais on a fait avec parce qu'il fallait bien faire avec. Parce que si tu ne te protégeais pas, si tu n'étais pas un bon soldat, tu ramassais une balle, il fallait vraiment faire son métier correctement pour pouvoir faire cette guerre. C'était ça. Puisque nous étions des Français, la France était en guerre. On nous a pris pour aller faire la guerre, donc nous avions fait la guerre.
Est-ce que vous, comme d'autres, en termes de reconnaissance, est-ce que vous vous sentez à l'aise?
À l'aise? Pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Lorsqu'on fait la guerre pour un pays, il y a quand même un petit privilège. Il faut quand même que la France reconnaisse que l'ancien combattant, c'est celui qui a fait la guerre pour son pays. Il faut bien que la France reconnaisse cela. Et surtout pour les visas. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir le visa. L'ancien combattant, il faut lui faciliter la tâche. S'il est malade, s'il demande un visa, envoyez-le. Surtout que nous avions payé la sécurité sociale. C'est De Gaulle qui a créé le système de la sécurité sociale. Nous avions cotisé cette sécurité sociale. On n'a pas bénéficié des soins de cette sécurité sociale. Ce sont d'autres qui sont en France qui bénéficient. C'est pas normal que la France ouvre ce problème de visa. Quand un ancien combattant veut demander un visa, s'il y a les motivations, de toute façon, nous n'y habitons pas là-bas. Moi, je n'ai pas besoin d'aller vivre là-bas. J'en ai pas les moyens. Aller faire un petit tour quand on est malade et on revient. La France doit faire cela. Pour nous qui avons fait la guerre, pour nous qui avons souffert pour cette France, le Congo, c'est quand même la capitale de la France libre. Parce que la France n'avait pas de capitale. Sa seule capitale, c'était le Congo Brazzaville. Vous voyez bien, vous êtes ici à Brazzaville. Vous ne voyez rien de ce que la France a fait pour la reconnaissance de cela. Il n'y a rien. C'est tout.
Moi, gaz militaire, moi, pas besoin de galop, soutez-moi du riz. Serza Massamba, trahir moi, gaz à caporal Mitsotso, la guerre pour moi, y'a beau chercher vos sorts. Y'a tata, t'a mon noir, gâte, moi, c'est le frein, ça tombe pas qu'on va l'imbaner, commande à ka foi, mais n'a coup de quoi ni moutou. Bête, va militaire. Bête va militaire, Muntu Sakana, tu couvris Kweto.
Zaou, depuis toutes ces années, quelle relation vous avez avec les anciens combattants ici, qu'ils soient la Deuxième Guerre mondiale, de l'Indochine, de l'Algérie, des guerres civiles, de la guerre en Angola? Il y en a partout ici, et vous, vous avez toujours été très sensible à ce qu'ils racontent, à leurs histoires. Quelle relation vous avez avec eux depuis votre enfance?
Mais les relations sont très bonnes. Vous savez, même un militaire, s'il a déjà fait la guerre, c'est un ancien combattant. Même s'il est, il est dans l'armée. Ceux qui, au départ, n'étaient pas contents d'entendre cette chanson, ils pensaient qu'on se moquait des militaires. Quand on dit, moi, engagé militaire, moi, pas besoin de galon, jetez-moi de riz. Celui qui n'a pas de galon, il pense qu'on se moque un peu de lui. Parfois, on m'interpellait dans la rue. Isao, tu te moques des militaires. Mais il y en a ceux qui disaient que non, mais c'est de l'humour, c'est bien, bien au contraire. Il est en train de faire honneur à notre métier, le métier des armes.
Isao, est-ce que c'est difficile d'intéresser les gens sur les anciens combattants? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de continuer à chanter cette chanson, de faire des concerts, de parler de toute cette mémoire?
C'est difficile. C'est un peu difficile, ouais. En même temps, ce n'est pas difficile parce que les guerres... elles sont toujours là, hein. Elles sont toujours présentes. Ceux qui seront contre cette chanson, c'est ceux qui veulent vraiment la guerre. Mais ceux qui veulent la paix, ils vont dire non, laissez cette chanson-là partir, traverser les montagnes, écouter cette chanson, c'est une chanson de paix.
Serza Massamba, trahir Mangasa, caporal Mitsotso, la guerre pour moi, vous cherchez vos sorts.
Est-ce que vous vous souvenez particulièrement d'une réaction un jour d'un ancien après un concert ou d'une femme, d'un jeune qui est venu vous parler, ce que ça a pu produire comme réaction chez votre public? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça vraiment très très forts pour vous qui vraiment, vous ont marqué?
Vraiment, merci beaucoup pour la question. Je suis passé au Gabon, au stade Omar Bongo de Libreville. J'étais avec Pépé Calé, Loko Massengo, Emoro. Tous les anciens combattants étaient au stade. Je ne savais pas, c'était une grande surprise. Vous imaginez? Et Pépé Calé a dit, Zao, c'est toi la vedette aujourd'hui. Nous, on ne va pas chanter. Donc moi, j'étais surpris. Et lorsque j'ai chanté la chanson, tous les anciens combattants, ils étaient en tenue. Hein. Ils se sont levés. Vous venez me donner, c'est comme on fait chez nous, hein. On donnait un peu le pourboire. 10 000. Donc, la tenue que les poches que j'avais étaient pleines d'argent. Donc, je me disais que c'était plus que le cachet. Et quand j'ai fini le chant, c'était l'émeute. Tous les supporters, ils m'ont arraché toutes les médailles que j'avais. Ils m'ont arraché la tenue, parce que tellement qu'ils étaient contents, chacun voulait amener un morceau de la tenue. Ça, j'ai gardé un grand souvenir de toute ma carrière. L'ancien combattant, c'est une chanson qui porte encore, qui a encore sa raison d'être, parce que c'est une histoire commune, l'histoire des tirailleurs, l'histoire de la guerre mondiale.
Merci beaucoup, Zao.
Merci à toi aussi. Merci à RFI, merci.
Et c'est à l'invitation des deuxièmes rencontres Images et Histoires de Brazzaville que Zao s'est produit sur la scène de l'Institut français. Un concert fort en émotion où anciens et jeunes combattants ont dansé, ont défilé au son de cette chanson qui rappelle la longue histoire des tirailleurs. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, Indochine, Algérie, les soldats africains ont été de tous les combats. Yeah. Les Africains dans la Seconde Guerre mondiale, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompéani. Vos réactions sont les bienvenues à l'adresse suivante, marche.monde@rfi.fr. Vous pouvez également vous exprimer sur la page Facebook de La Marche du Monde. Téléchargez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.
Merci, le Festival Cinéma et Histoire. Merci, l'ICEF. Merci à tous mes amis. Merci.